des vrais endroits pour présenter les collections de vos étudiants par la suite ou recréer un cœur dynamique, parce qu'il y a eu à un moment donné à Roubaix la rue où il y avait des magasins de mode, on va dire.
Hein. Maison de mode.
Mais je sais pas si ça existe encore, non.
Non, maison de mode, je peux vite vous en parler. Voilà, maison de mode est née à Roubaix il y a presque 20 ans de cela. Beau projet, emblématique. Parce que déjà il y a 20 ans, Roubaix était novateur pour dire, voilà, il faut réindustrialiser, il faut donner et accompagner des jeunes talents. Malheureusement, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que voilà, moi, pour moi, c'est une page qui est malheureusement tournée, mais qui va renaître de ses cendres, c'est évident. À un moment donné, quand vous n'avez plus de soutien, pouvoir public, mais comme toutes ces associations, moi qui me... Mes sublimes tissus associatifs à Roubaix, et ailleurs, dans le Nord, fermés les unes après les autres, mais qui ont développé des choses, mais somptueuses, pas qu'à Roubaix, mais parties de Roubaix, qui sont développées à l'international. Et du jour au lendemain, par des décisions purement pouvoir public, paf! Ben, ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Parce que ça met des gens au chômage. Des personnes en plus qui, mais faisaient des chiffres d'affaires. Ils étaient partis de zéro. Et grâce, exemple maison de mode, ils atteignaient au bout de 2-3 ans, des 4, 5, 6 millions de chiffres d'affaires. Jamais ça aurait été imaginable. Ben ça, ça a été balayé d'un revers de main. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, merci à vous, vraiment, pour cette interview. Ça fait du bien de partager des valeurs, et je pense que vous en avez. Merci à vous.
Vous écoutez Radio Campus, 106,6 FM, campusille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Après Philippe Smirou, donc directeur d'Esmode Roubaix, voici la présentation de quelques collections par leurs créateurs.
Du coup, je vous présente ma collection, elle s'appelle Lise la Terreur. Donc c'est inspiré d'un pirate que j'avais créé quand j'étais petite, du pirate Lise la Terreur. Et donc mon but, c'est d'amener les personnes qui regardent ma collection à découvrir mon univers et mon monde au travers de mes vêtements. Du coup,
Votre nom ?
Margot de Josel. Et du coup, j'ai créé par exemple un motif inspiré des tapisseries des chambres d'enfants en y insérant plein de petits détails, plein de petits trésors pour justement aller avec l'univers du pirate et ce genre de choses. Et en même temps, travailler le fait que Lise la Terreur, c'est un pirate que j'imagine dessiner quand j'étais enfant. Et donc, je l'imaginais depuis ma chambre. Et donc, travailler la tapisserie des chambres d'enfants du passé, ça rappelle en même temps, ça re-amène vers le pirate et l'enfance, etc. Et donc, mon but aussi, c'est de travailler tous les vestiaires, enfin, plusieurs vestiaires. J'ai travaillé du vestiaire historique au vestiaire du sportswear, en passant par le casual et la lingerie. Et comme ça, par exemple, j'ai fait un suite qui est travaillé comme un corset sur tout le bas du sweat. Et donc, il y a des baleines et ce genre de choses. J'ai brodé toutes mes boutonnières à la main. Et pareil pour une veste en jean où j'ai créé toutes mes découpes en fonction, en imaginant par rapport au corset et en y rajoutant plein de petites choses historiques. J'ai des queues de pie, enfin j'ai plein de choses comme ça. J'ai des volumes assez grands, des crinolines sous les jupes, ce genre de choses. Et pareil pour par exemple mes t-shirts, j'y ai mis des petites boutonnières sur l'épaule pour rappeler le pull marin, comme là, juste ici, pour rappeler le pull marin du coup.
Là, on a une jupe courte, bouffante un peu.
Ouais, c'est un bloomer. Du coup, c'est un short. C'est inspiré du coup de la lingerie d'époque. Et je l'ai fait en version mini et en molleton pour amener aussi une modernité que j'amène aussi au travers de mes matières.
Je trouve que l'équilibre, la dynamique aussi entre les jambes, les chaussures et la veste c'est... Un short ou une jupe ?
C'est un genre de short, ouais.
Je trouve qu'il y a une belle esthétique, en plus, une belle dynamique.
Oui, c'est aussi pouvoir donner une certaine balance entre les pièces et pour donner une forme, une certaine forme à la tenue, à la silhouette.
Voilà, donc ici, dans l'école, vous avez conçu combien, on va dire, d'œuvres ?
Là, j'ai 14 pièces et donc 6 looks, 6 silhouettes. Et du coup, bon, bah, tout a été fait ici depuis novembre. En novembre, on a commencé le stylisme. Non, en fait, en début d'année, on a commencé plus le modélisme vers novembre, décembre. Et depuis, on a fait des toiles. On a refait, on a défait, on a refait pour en arriver du coup à notre collection actuelle.
Alors, l'an prochain ?
Moi, l'an prochain, je sais pas trop ce que je fais. Je dois faire un stage de 6 mois. Mais du coup, je suis encore à la recherche du stage.
Voilà. Alors, on va rappeler votre nom, hein, Margot De Gezele. Hein, D-E-G-E-Z-E-2-L-E.
Oui, c'est ça.
Un contact
par mail. Du coup, Margot De Gezele, M-A-R-G-A-U-X-D-E-G-E-Z-E-2-L-E, @gmail.com.
Voilà, bien bonne chance. Hein.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Ella Esmans, je suis étudiante en troisième année à Esmod. Et ici, aujourd'hui, je vous présente ma collection qui s'appelle Jeanne. Donc, dans cette collection, je viens parler du fait d'échapper à la réalité par le rêve en alliant l'appel du vide et en faisant un constat de mon expérience personnelle et de comment je l'ai vécu.
Donc là, je vois des vêtements. Est-ce qu'ils symbolisent la collection ? C'est-à-dire, je vois des vêtements plutôt blanc et cru, proche du naturel, on va dire.
Oui, alors le pantone blanc est rapporté par rapport au mouton que j'ai pris un peu en tête d'accroche, si je puis dire, sur le fait de compter les moutons en allant s'endormir. Et donc, à travers ces vêtements, j'essaie de retranscrire au maximum ce mouton sur la forme, qui, avec les volumes assez importants et très ronds, sur le pantone de couleur qui est très blanc et crème, et encore sur les côtés un peu sensoriels des matières, sur le cuir ici, une peau assez douce, et voilà, et même sur le lainage ici ou sur les pulls qui sont en laine également.
Voilà. Donc une collection qui est, on va dire, sobre mais travaillée.
C'est exactement ça. Ici, j'ai gardé cette couleur assez blanc, très proche de cette pureté, un côté un peu angélique, mais avec des retravails matières assez importants, comme le bombers ici, où on a, qui est entièrement fait en France, le manteau, qui est fait donc en peau, sous une forme d'ailleurs de zéro waste, où ici, on essaie de faire le moins de chutes possible avec les peaux de cuir. Donc assez, oui, très, très travaillé, assez sensoriel sur ce point-là.
Là, c'est vos créations dans l'école. Est-ce que par la suite, vous allez développer cette esthétique ?
Oui, pourquoi pas. Je pense que par la suite, l'esthétique sera assez intéressant à travailler et à pousser peut-être pour justement avoir cette dystopie où ici, on part du rêve et pourquoi pas, en allant chercher justement cet appel du vide, arriver peut-être au cauchemar et du coup avoir toujours cet esthétisme, mais avec par exemple des pantones plus foncés ou d'autres matières, etc. Mais toujours dans le même esthétisme et la même ligne un peu de ce que je fais aujourd'hui.
Voilà, un work in progress.
Exactement, work in progress.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On rappelle votre nom.
Ella Esmans, et nom de marque, Esmans Studio.
Alors du coup, je m'appelle Margot Van Kezel, je termine ma troisième année à Esmod Roubaix. Et donc du coup, j'ai réalisé une collection qui porte sur les troubles obsessionnels compulsifs liés au rangement et à la propreté. Et donc du coup, elle fait partie intégrante de ma marque MV, qui a pour concept des lignes minimalistes et une vision géométrique.
Voilà, donc c'est un concept original, on va dire, mais beaucoup de gens sont concernés par ces troubles. Hein. Après, on peut les porter aussi si on veut changer de nature momentanément.
Oui, oui, justement, les TOC, ils concernent 3% de la population mondiale. Et les TOC, c'est la 4e maladie psychiatrique la plus importante qu'on retrouve chez les personnes. Et donc justement, la cible, elle est justement tournée vers les gens qui ont des TOC afin de les rassurer, de les protéger avec le vêtement. Mais elle est aussi tournée vers toutes les personnes qui sont sensibles justement au retravail matière, au design minimaliste, épuré et à la géométrie.
Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, soit de la journée, soit de la semaine ou de la vie, ça peut correspondre à un moment de réflexion, de recherche de soi ?
Oui, bien sûr, oui, parce que justement, le but de porter le vêtement, c'est justement de se retrouver, en fait. Et pour les personnes qui ont des TOC, c'est justement de garder le contrôle et de se retrouver à travers le vêtement et de pouvoir, on va dire, lâcher prise, parce qu'il aura retrouvé justement son confort avec le vêtement qui justement lui empêchera de... Enfin, qui limitera ses TOC.
Et est-ce que ceux qui ont des TOC le savent toujours, ou est-ce que justement ces vêtements permettent éventuellement de les révéler ?
Je pense pas qu'ils permettent de les révéler. Après, je pense que quand on a, ça dépend aussi du degré des TOC. C'est vrai que pour certains, ça peut être très minime, donc forcément, on peut ne pas forcément s'en rendre compte. Après, je pense que les personnes qui sont atteintes vraiment de TOC plus graves s'en rendent vraiment compte, parce que c'est très handicapant au quotidien.
Et le fait de les montrer d'une certaine manière, d'extérioriser via des vêtements, est-ce que ça peut atténuer la difficulté de rencontrer l'autre ?
Oui, tout à fait, ça peut atténuer la difficulté de rencontrer l'autre, parce que justement, en fait, on ne sera plus dans le besoin de tout contrôler, puisqu'en portant le vêtement, on sera rassuré. Donc justement, on sera potentiellement plus apte à discuter avec les autres, parce que on sera plus rassuré, donc on aura moins à penser, justement.
Alors là, je profite qu'il y a un modèle avec vous. Je vais peut-être lui poser une question si elle parle français.
Elle parle anglais.
Anglais, oui. Hello.
Hello.
How do you feel like that? Do you feel fine?
Yes, I feel fine, and the material is very soft and comfortable. Even I have my sensitive skin, it's very comfortable to wear so long.
It's really beautiful.
Yes, I love it.
Yes. And this is your favorite?
Yes, because it's very soft and very comfortable. Mm. Even it's hot.
It's very fine. Thank you.
Yeah.
Bonjour, donc je m'appelle Noémie Duflo et ma collection s'intitule Nova. Elle mêle la rigueur artisanale à travers un tissage en cuir que j'ai réalisé pour la combi short et la veste et l'univers des années 60, puisque c'est une période que j'affectionne tout particulièrement pour son côté émancipation féminine, toutes les formes géométriques que j'ai voulu réinterpréter dans ses vêtements. Donc, par exemple, au niveau du décolleté, on peut retrouver cet esprit géométrique, les découpes de mon pantalon avec les poches, ou alors la découpe du dos, par exemple, de cette veste en cuir.
C'est presque pop art ?
C'est ça, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment le contraste rouge et beige, ouais, que j'ai voulu réinterpréter à travers cette collection. Et aussi le contraste au niveau des matières, puisque la brillance de cette jupe et du cuir, opposé avec la matière plutôt brute de la maille, du jersey mosaïque ou du lainage, c'était un contraste assez intéressant.
Donc la maille, elle est... bon, c'est un tissage, on va dire, un manuel ?
Oui, c'est un tissage manuel que j'ai réalisé donc, à partir donc, d'une peau brute. J'ai thermocollé l'envers de la peau et réalisé toutes les franges donc, avec un découpe dentelle, qu'on peut retrouver ici. C'est cet appareil que j'ai utilisé pour réaliser toutes les franges. Ensuite, le processus créatif, donc j'ai réalisé le tissage pour chaque patronage de ma combi short, par exemple, qu'on peut retrouver, voilà. Mm-hmm. Donc le processus créatif, donc chaque patronage est réalisé en tissage. Ensuite, au niveau de la valeur de couture, donc j'ai surpiqué pour que le tissage se bloque et dégarni au niveau d'au-delà de la couture. Ensuite, pour assembler les patronages ensemble, donc j'ai réalisé un point zigzag. Et pour recouvrir le point zigzag, à l'aide d'une bande en cuir collée, j'ai caché la couture pour que l'intérieur et l'extérieur soient propres.
Donc ce tissage, il reste, je veux dire, on ne va pas tirer un fil et tout
non,
va venir. Hein.
Tout est tenu ensemble, que ce soit déjà avant la finition collée, tout est tenu ensemble.
C'est un gros travail à réaliser.
Oui, c'est un gros travail. C'est beaucoup d'heures de travail. C'est vrai pour ces deux pièces. C'est plus des pièces images que je pourrais commercialiser en pièces uniques ou en petite série, mais pas en très grande série commerciale.
Donc c'est un univers que vous restituez, j'allais dire, vous imprégnez d'un univers des années, on va
50.
Dire 60,
hein, oui,
que j'ai bien connu, et vous arrivez à transposer avec une certaine modernité. Où est-ce que se niche la modernité selon vous ?
La modernité, c'est plus dans les découpes, je trouve, et puis les matières aussi. Je pense que le vinyle, c'est une matière qui fait référence aux années 60, mais c'est une matière qui est intemporelle. Peu importe les époques, je trouve que c'est hyper moderne, ce type de matière.
La matière, c'est
du cuir verni ou du cuir brillant. Enfin, j'ai les deux. J'ai le cuir verni beige et le cuir brillant, qui fait référence au cuir vinyle qu'on pouvait retrouver dans les années 60 avec des marques comme Courrèges, qui m'ont notamment inspiré.
Comment on réalise le brillant ?
Le brillant du cuir ? C'est avec un vernis. Après, c'est pas moi qui ai réalisé le vernis. J'ai acheté le cuir déjà verni et déjà brillant, mais...
Donc voilà, des mises en acte de vos idées.
C'est ça.
Heureux du résultat ? Heureuse ?
Oui, très heureuse, oui. Bien sûr.
Donc pour vous, cette journée, c'est important ?
Oui, c'est très important. Bah, pour montrer aux professionnels tout ce que j'ai réalisé en un an, c'est quand même un très gros projet avec beaucoup de sacrifices, enfin, beaucoup d'heures de travail dessus. Il y a quand même pas mal de pièces à réaliser, donc c'est énormément de travail, c'est sûr. C'est très important. Oui.
Donc on est dans l'artisanat d'art, là ?
Oui, c'est ça. Ma marque, je pourrais la qualifier de marque artisanale de luxe, puisque c'est quand même des pièces de qualité, donc à un prix certain élevé, enfin un prix quand même élevé pour le nombre d'heures.
Donc dans le marché actuel, vous arrivez à imaginer votre développement d'entreprise ?
Oui, je pourrais imaginer le développement d'entreprise, mais plutôt donc avec des pièces images, donc comme la combi short et la veste. Donc soit pièce unique, soit petite série. Et après, pour tout ce qui est tissu comme ça, prêt à porter de luxe, ou alors petite série, ouais.
Donc vous vous rapprochez d'une marque pour vos démarches de développement de projet ?
Alors il y a des marques comme Nanushka ou Studio Nicholson. Ce sont des marques comme ça qui ont un attrait pour le côté artisanal et puis les matières nobles, le côté très épuré dans la silhouette et minimaliste. Et donc c'est plus des marques qui m'attirent. Voilà.
Voilà, on va entrer maintenant dans un univers, je veux dire artistique, un style, peut-être une époque aussi. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Sirius, je suis en troisième année à Ismode et donc je vais vous parler de ma collection. Donc j'ai mélangé deux vestiaires qui n'ont de base rien à voir entre eux, donc à savoir le vestiaire fétiche BDSM et le vestiaire du 19e. Donc j'ai repris des pièces typiques ou des codes typiques de chaque vestiaire et j'ai mixé les deux pour créer un nouveau personnage, une nouvelle muse.
Voilà, donc on va dire un résultat très original. Et donc est-ce qu'on peut dire qu'au travers qu'on voit ce que vous présentez là, une collection, vous définissez déjà votre style ? Vous le revendiquez ?
Bah oui, je pense. Les deux styles qui n'ont de base rien à voir ensemble, mais mélangés ensemble, ça crée quelque chose d'au final pas si dérangeant. Enfin, c'est même harmonieux les deux. Et donc, ça crée quelque chose de normal au final, en fait.
Comment vous imaginez ? Bah là, on voit des personnes qui portent, on va dire des mannequins qui portent ces vêtements. Hein. Est-ce que dans la réalité de la mode et même peut-être de la vie, vous imaginez ces vêtements en circulation ?
Bon, alors, peut-être pas toutes les pièces comme ça dans la rue, mais par exemple, le grand manteau là, ou même celui-là, il est transformable. C'est une camisole, mais qui peut être un simple blouson si on retire les manches, ou la patte, là, ça devient un blouson tout à fait classique.
Est-ce qu'on peut dire que vous visez aussi à ce que ces gens qui les portent soient remarqués ? Sinon remarquable.
Totalement. On veut un peu attirer l'attention et marquer les esprits.
Est-ce qu'il y a quand même une ambiance de fête qui s'en dégage pour des événements ? Est-ce que vous voyez bien porter ça dans des soirées particulières ?
Des soirées, je ne sais pas trop.
Non. Donc bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez présenter les vêtements que vous portez ? Donc,
oui. Alors moi je porte une combi short en velours avec des œillets et des piques. Et par-dessus j'ai une culotte inspirée 19e en soie avec des détails de dentelle et encore une fois un rappel avec les œillets.
Est-ce que ça vous semble agréable à porter ?
Oui, c'est agréable à porter. Franchement, c'est assez confortable.
Et ces choses qui dépassent là, ça fait pas peur ?
Non, du tout, parce qu'à l'intérieur, comme c'est doublé, on les sent pas contre la peau, donc non.
Ce style que vous portez, est-ce qu'il correspond aussi à votre réalité psychologique ?
À ma réalité, à moi, je dirais que oui, je colle assez bien avec, l'identité de Sirius, je dirais. Après, comme il a dit, ouais, forcément, ça va pas forcément à tout le monde, mais les pièces, elles sont quand même faites d'une certaine façon pour que, justement, ce soit portable par à peu près n'importe qui.
Voilà, donc autre personne qui porte... alors, il va le décrire lui-même. On voit encore des pointes qui dépassent là, mais on voit quelque chose avec aussi des lanières, je sais pas, voilà, à clous, etc. Et puis là, par contre, il y a une veste qui couvre un torse, on va dire.
Tout à fait. Bah, du coup, je porte un manteau qui est un peu inspiré d'une soutane en matière un peu de l'Eden. Et un short en matière de latex avec des petits piercings dessus et des petits rubans au niveau des genoux pour rappeler un peu le vestiaire du 19e siècle. Et on est très confortable dedans, c'est super.
Le tatouage, il était là avant ?
Non, c'est Cyrus qui m'a tatoué. Non, mais oui, ils étaient là avant. Et bien sûr aussi les petits œillets un peu partout sur les manches, etc. Qui vient rappeler, qui vient matcher un peu avec les piercings du short. Et un petit harnais en accessoire en plus, avec des clous dessus.
Donc on peut dire que ça s'associe bien, il y a une logique.
Exactement, oui, ça se marie très bien, le tout ensemble, ça crée une belle harmonie, avec un peu de disparité quand même, parce que c'est pas les mêmes univers, mais c'est orchestré de manière à ce que le tout fasse une belle harmonie quand même. Ouais.
Est-ce que vous avez essayé d'autres pièces de la collection ?
Oui, moi j'avais essayé la veste qu'on peut transformer, qui est de base une camisole qu'on peut transformer en veste. Et c'est exactement à peu près la même chose, juste elle est en cuir. Sinon, c'est à peu près la même idée.
Voilà, donc pour vous, c'est intéressant de porter un vêtement quasiment unique ?
Oui, tout à fait. Bah, surtout dans le monde dans lequel on vit maintenant, où il y a beaucoup d'uniformisation, beaucoup de choses qui se ressemblent, de mode où tout le monde met les mêmes choses. Je trouve que c'est important de se revendiquer, notamment à travers ces vêtements, parce que c'est la première apparence qu'on rejette aux gens. Et je trouve que c'est super important, avec des vêtements uniques comme ce Cyrus, de pouvoir se revendiquer qui on est.
Voilà, donc un travail de créateur, je reviens vers lui. Hein. Donc, fier de vos vêtements, fier de vos modèles aussi.
Ah bah totalement, les modèles ils sont parfaits pour incarner la collection.
Merci et donc bonne chance hein, pour la suite.
Merci.
Merci à vous.
Bonjour, je m'appelle Léa, je suis étudiante à ESMOD et j'ai créé une collection pour les femmes entre 1m40 et 1m55.
Alors c'est vrai que bon, moi qui suis un peu enveloppée, on dit ça, c'est pas toujours facile de trouver ma taille, mais j'imagine dans l'autre sens c'est aussi un problème.
Oui, effectivement, c'est très compliqué. On est toujours en train d'essayer dans les magasins de devoir reprendre les vêtements. Du coup, moi, j'en avais marre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer des vêtements qui vont aux gens entre 1m40 et 1m55.
Alors, j'imagine qu'en fouillant dans les catalogues, on peut peut-être trouver des tailles petites. Mais en termes de création, de choses intéressantes, on va dire, en termes de style, c'est plus rare.
C'est vrai qu'il existe des marques qui font quand même des vêtements pour les gens petits, mais ce n'est pas la marque en entier, c'est quelques pièces où après il faut vraiment essayer pour trouver. Mais là, c'est vrai qu'il n'existe pas vraiment de marque qui est axée totalement sur ça, en tout cas pas en France.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes entrée dans la psychologie de ce qu'il faut pour répondre à une caractéristique morphologique ?
Je pense qu'on peut le dire, j'ai fait beaucoup de recherches. Même au-delà de ça, de voir s'il n'y avait pas des endroits qui réunissaient ces gens qui avaient ces difficultés. Mais étonnamment, il n'existe pas beaucoup de communautés, on va dire. Il en existe pour les gens encore plus petits, mais dans cette taille entre 1m40 et 1m50, c'est vrai qu'on ne pense jamais à ces gens-là qui sont perdus entre les plus petits et les gens de taille moyenne.
Et ça changerait quoi pour vous de faire la même chose en plus grand ?
Alors dans l'absolu, moi ça me dérangerait pas, mais le but c'est vraiment que quand on aille en magasin et qu'on fait cette taille, et qu'on puisse rapidement trouver un vêtement qui nous va, parce que des vêtements pour un 38, il en existe des milliers on va dire, alors que des vêtements vraiment adaptés, il en existe pas tant que ça finalement.
Est-ce que ce sont des pièces uniques ou comment ça fonctionne votre production ?
Alors non, on peut faire une production, donc c'est du prêt-à-porter premium, donc on peut très bien lancer une série de vêtements. Alors il y a peut-être 2-3 pièces qui sont plus compliquées à lancer en production, mais ça reste une minorité sur une collection, donc voilà.
Est-ce que vous pourriez décrire donc ce vêtement avec cette personne qui le porte élégamment ?
Alors oui, je peux le décrire. Donc on a ici un trench avec un col dans le dos qui est croisé, avec des plis dans le dos et au niveau des manches. On a aussi des resserrages au niveau des poignets pour vraiment marquer ces différences. On a ensuite un t-shirt avec un col V. Et on a par la suite un pantalon avec sur le côté des rayures, des poches arrière. Parce que je voulais vraiment jouer avec cet esprit de rayures pour donner cette illusion de grandir, de modifier l'allure du corps. En fait.
Il y a un slogan qui dit « Small is beautiful
». Moi, je suis d'accord. Hein.
Donc, effectivement, je confirme. Est-ce que vous pourriez, mademoiselle, vous présenter ?
Alors, moi, je m'appelle Mylène. J'ai 19 ans, je suis maquilleuse. Et aujourd'hui, je suis mannequin pour Léa, du coup, étudiante chez ES Mode de Roubaix.
Donc vous avez une compétence déjà de maquilleuse et une spécificité qui correspond bien sûr à la gamme qui est présentée aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est un appel du pied vers d'autres créateurs qui voudraient vous correspondre ? Par exemple, vous en tant que mannequin, est-ce que vous voulez suivre votre créateur ou est-ce que vous voulez aussi avoir une ouverture vers d'autres stylistes par exemple ?
Alors personnellement, j'ai totalement adhéré au style de Léa. Donc personnellement, je trouve que son style de création est particulièrement intéressant. Ça reste encore tout nouveau dans vraiment le monde de la mode de s'intéresser aux personnes de petite taille. Donc je trouve que c'est quand même un grand pas qui a été fait. Et par la suite, j'espère bien avoir d'autres peut-être collections qui vont arriver ou d'autres marques qui voudraient inclure beaucoup plus de personnes dans leur collection.
Donc on vous souhaite de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir acheter donc ce qui vous séduit aussi en termes de vêtements qui vous correspondent et dont vous pouvez être fier pour sortir en public et puis de voir du monde et sans doute séduire d'ailleurs.
Oui, non mais c'est totalement ça. Les pièces sont totalement adaptées à tout le monde, ce qui permet justement d'avoir cette affirmation qui vient naturellement, puisqu'on a des vêtements qui sont adaptés à notre corps et qu'on n'a pas besoin de modifier. Parce que c'est quand même très embêtant de devoir remonter les manches d'un t-shirt ou de devoir ajuster son pantalon. Ici, on a vraiment ce confort et cette aisance directement avec cette collection créée par Léa. Donc c'est vraiment ce qui est très innovant.
Donc, on a une gamme qui est dans les rouges, les roses, les bleus. Vos cheveux ne sont pas innocents non plus ?
Alors, mes cheveux ne sont pas faits exprès du tout. Je les avais avant de justement me lancer pour être mannequin pour la collection de Léa. Cependant, moi, j'adore les couleurs vraiment flashy. Léa a quand même créé une déclinaison avec des couleurs beaucoup plus pastelles, beaucoup moins flashy, qui permettent aussi de se reconnaître peu importe qui on est. Si on est quelqu'un beaucoup plus extravagant, on va se reconnaître dans beaucoup de déclinaisons de couleurs. Et ça marche aussi si on est quelqu'un d'assez introverti ou d'assez discrète qui ne veut pas se faire repérer. Dans ces cas-là, on a des gammes de couleurs beaucoup plus discrètes, beaucoup plus pastelles, tout en respectant justement l'affirmation de soi.
Donc là, en l'occurrence, c'est facile de vous repérer. C'est une belle mise en contact en même temps, ça facilite.
Oui, c'est vrai. Et vraiment, son univers, je l'adore, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc...
Voilà, cette émission est un encouragement et un hommage à tous ceux qui mettent leur énergie et leur intelligence au service du futur de notre territoire des Hauts-de-France. Une production de René Lavergne de Radio Campus Lille. Vous écoutez Radio Campus, 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. C'est en Hauts-de-France que l'exposition temporaire « S'habiller en artiste, l'artiste et le vêtement » est présentée au musée du Louvre-Lens jusqu'au 21 juillet 2025. Elle vous permettra d'explorer les liens entre l'art et la mode et met brillamment en lumière comment les artistes et les créateurs de mode ont façonné leur propre image à travers le vêtement, en faisant de celui-ci un élément distinctif et une expression artistique à part entière. On retrouve au musée Olivier Gabet, directeur du département des objets d'art au musée du Louvre, pour cette immersion fascinante au croisement de l'art et de la mode.
Alors, je suis Olivier Gabet, je suis directeur du département des objets d'art au musée du Louvre et je suis co-commissaire à l'exposition « S'habiller en artiste ».
Donc cette exposition-là, elle met bien sûr en valeur les artistes, aussi les personnes qui ont gravité dans le monde de la mode en général, et les connexions sont souvent faites dans cette exposition.
Alors l'idée, c'était de montrer comment peuvent se rencontrer quelquefois la mode et le vêtement d'un côté et l'art et les artistes de l'autre. D'une part parce que les artistes sont un sujet de représentation, soit par le fait de l'autoportrait, soit en se étant représenté par d'autres artistes, et que souvent un élément caractéristique et distinctif peut être celui du vêtement et donc de la mode, et que historiquement, depuis des temps assez reculés jusqu'au 20e au 21e siècle, on peut reconnaître un artiste par son apparence, Andy Warhol par sa perruque, Nikki de Saint-Phalle par son extravagance, ça c'est une chose, et de l'autre côté, de montrer que le vêtement par ailleurs devient aussi au fil des siècles une expression artistique en tant que telle. C'est le cas notamment au moment de l'avènement de la haute couture, où le vêtement devient potentiellement un objet unique qui va être signé comme une œuvre d'art, d'une certaine manière. Et c'est une revendication de cette période, qui est reprise ensuite par un certain nombre de créateurs. Et on met en exergue dans cette exposition une figure comme Yves Saint-Laurent, mais aussi comme John Galliano pour la Maison Dior, qui montre combien ces créateurs de mode ont aussi cet appétit pour l'art et sont capables d'utiliser l'art pour l'exprimer d'une manière ou d'une autre, et comment aussi, chez beaucoup d'artistes depuis le tournant du 19e et du 20e siècle, le vêtement est devenu la matière d'une création en tant que telle et peuvent s'en saisir pour en faire des œuvres d'art en tant que telles, sans qu'elles soient nécessairement des vêtements à porter, mais vraiment comme une sorte de manifeste artistique et esthétique.
Alors il y a ce vêtement en tant peut-être singularité de la personne qui veut se montrer d'une certaine manière, qui veut suivre ou non des tendances. Et puis il y a ce vêtement qu'on retrouve à un moment donné qui est une sorte de dress code pour des gens qui apparaissent dans une certaine société.
Alors ça c'était aussi un point important. Alors évidemment c'est pas, l'exposition ne pose pas les choses dans l'absolu. Elle montre au contraire comment... Les vêtements aussi sont, le vêtement est aussi une manière de s'exprimer pour les artistes dans un cadre sociologique. Le vêtement fait partie aussi petit à petit du statut de l'artiste. Le fait de se représenter de telle ou telle manière est souvent une manière de s'afficher et de dire des choses pour l'artiste sur où il se situe dans la société même. Et c'est vrai que c'est frappant de voir combien au 19e siècle, loin quelquefois l'idée de la bohème, l'artiste aime à adopter ou se représenter dans une forme d'apparence bourgeoise qui le place un peu autrement aussi dans l'espace social. Donc ça c'était aussi un point pour nous très 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 important, c'est-à-dire de montrer que tout fait sens dans une œuvre d'art et que le vêtement a aussi un sens qui est souvent décisif dans la manière d'approcher et d'interpréter l'œuvre d'art.
Parmi ces artistes, il y a des artistes femmes. Elles sont peu nombreuses dans les siècles derniers à être présentées, même si maintenant on commence. Notamment, je pense à une très belle salle consacrée à Nikki de Saint-Phalle.
Alors, Nikki de Saint-Phalle, c'est une artiste très singulière, évidemment, parce que c'est une artiste majeure qui, par ailleurs, a très vite eu un intérêt pour le vêtement. D'abord parce qu'elle a conscience que son message, et elle est très jeune, appelée à commenter son travail, qui semble quelquefois un peu étonnant aussi pour la critique et pour l'opinion publique. Donc elle est souvent amenée à le commenter. Elle se rend compte que son apparence vestimentaire, son apparence physique, font partie aussi d'une stratégie de communication pour parler de son œuvre, d'une part. Et d'autre part, elle va aussi, dans ce droit fil, être à la fois une muse, Yves Saint-Laurent va dire assez vite que l'allure d'Annick Saint-Phalle l'avait beaucoup inspiré dans certaines silhouettes de collections importantes des années 60 et 70, notamment ces combinaisons qu'il voit sur elle comme un vêtement de travail qui lui inspire des vêtements de soit de haute couture, soit de prêt-à-porter. Et d'autre part, elle-même va avoir une amitié très singulière, très forte avec Marc Bohan, qui est l'homme qui va succéder à Yves Saint-Laurent à la tête de la maison Christian Dior en 1962. Et avec laquelle va se développer une amitié très, très forte, puisque Nikita Saint-Phalle va lui commander un certain nombre de vêtements, où il va réaliser pour elle un certain nombre de vêtements. Et d'autre part, Marc Bohan va être aussi un très grand collectionneur de l'œuvre de Nikita Saint-Phalle. Et il crée pour elle des vêtements qui sont vraiment des vêtements uniques, qui sont des vêtements à elle, qui souvent d'ailleurs s'inspirent de ses propres créations à elle, qui sont repris sur ses vêtements, et qui leur donnent un statut tout à fait particulier, qui sont à la fois objet personnel et en même temps vêtements de performance, puisque quand elle les porte, Nikita Saint-Phalle sait qu'elle est la seule à les porter et que, de certaine manière, elle travaille son image à travers ses vêtements.
Nous sommes toujours avec Olivier Gabet, directeur du département des objets d'art au Musée du Louvre, pour la présentation au Louvre-Lens jusqu'au 21 juillet 2025 de l'exposition « S'habiller en artiste, l'artiste et le vêtement ». Il nous rend compte maintenant de la diversité des œuvres et des artistes présentés et représentés.
L'exposition, elle mêle à la fois des chefs-d'œuvre absolus. On présente deux des autoportraits de Rembrandt, qui sont quand même des œuvres absolument fondamentales dans l'histoire de l'art. On présente le très fameux atelier aux Batignolles de Fantin-Latour, qui représente cette pléiade d'artistes modernes autour de la figure de Manet. Donc on est auprès de... On a quand même des œuvres très, très importantes qui sont finalement présentes pour être lues, analysées et regardées d'une manière un petit peu différente dans l'espace de l'exposition temporaire. Et puis quelquefois, il y a des œuvres plus étonnantes. Les vêtements, me semble-t-il, sont des éléments assez étonnants. Puis quelquefois, nous sommes sur des œuvres d'artistes qui sont moins connus, qui sont aussi peut-être plus prospectifs. Des artistes aussi qui sont quelquefois inclassables dans ce rapport justement entre l'art et le vêtement. Je pense à quelqu'un comme Marcel Bascoulard, qui est un artiste berrichon, qui va passer d'une pratique de l'art brut à une forme de performance. C'est quelqu'un qui très souvent se fait photographier habillé de vêtements de femmes qu'il a lui-même d'ailleurs en général réalisé. Et pendant très longtemps, on s'est interrogé sur le statut artistique de ces photographies. Était-ce des performances ou n'était-ce pas plutôt des expressions un peu marginales par rapport à son travail d'artiste, de dessinateur qu'on lie à la question de l'art brut. Et en fait, on se rend compte dans l'exposition que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup dessiné de vêtements et que cet aspect obsessionnel est bien le fait d'un projet artistique en tant que tel et pas du tout comme une forme d'élucubration éphémère. Et ça, c'est aussi des choses plus surprenantes parce que c'est pas forcément ce qu'on attend à voir. Je pense que l'exposition, comme elle interroge à la fois des questions très graves et très profondes dans l'histoire de l'art, tout comme elle pose aussi des questions d'ordre relative à la culture populaire, je pense qu'elle ménage justement ces jeux de regard entre ce qu'on appelle en bon français le high and low, entre la culture sophistiquée et raffinée et quelquefois des œuvres qui peuvent paraître plus triviales ou en tout cas plus étonnantes. Et ça, je crois que c'est ça aussi qui fait la nature et la particularité de l'exposition.
Le Louvre a un nouveau département, enfin un département récent consacré à l'accueil d'œuvres qui sont dans des territoires problématiques en termes de sécurité. Là, vous accueillez aussi des artistes qui viennent de pays en difficulté et qui donc crée aussi pour notamment cette exposition.
La question de l'art textile est par ailleurs un art très universel qui est partagé par quasiment toutes les civilisations. Donc c'est aussi un point de rencontre et de convergence très important dans ce contexte-là. Et c'est vrai que le souhait qu'on avait avec Annabelle Ténès, c'était aussi de montrer une autre réalité artistique et la présence de Rana, qui est une artiste d'origine afghane, qui fait partie de ce fameux dernier vol affrété par l'État français pour sauvegarder des talibans un certain nombre de nos amis afghans lors de la prise de Kaboul. Eh bien, elle s'exprime aussi dans ce domaine du vêtement. Elle fait de véritables œuvres d'art, mais elle, en se nourrissant justement de ce vocabulaire, de cette expression liée à celle du vêtement. Et ça nous paraissait très important de montrer que Il y a toute une nouvelle génération, parce que ce sont des jeunes artistes, Raphaël Barontini, Janice Serial, par exemple, ou Vadudu, qui continuent aussi cette histoire de l'appropriation du vêtement comme une forme artistique en tant que telle. Et c'est, je pense que c'est nécessaire de le montrer, parce que, en effet, la réalité du monde n'est pas angélique, ça on en a tous, je crois, aujourd'hui conscience, et qu'il est important de montrer ces autres formes des réalités par d'autres artistes qui se retrouvent aussi auprès de nous aujourd'hui du fait de l'état du monde et de leurs propres conditions de travail. Et donc ça paraissait important parce que l'art est rarement détaché des contingences de l'actualité et des réalités du monde.
Quelques mots sur les choix scénographiques de cette exposition ?
Alors, la scénographie a été signée par Mathis Boucher, qui est un muséographe architecte qui travaille au sein de l'équipe du Louvre-Lens, avec beaucoup de raffinement, je dirais beaucoup d'efficacité. Il fallait un peu jouer du langage de l'exposition temporaire. Il fallait jouer aussi un peu du langage de la mode pour créer un lien entre le contenu et le contenant. Il fallait aussi que cette exposition soit conçue comme une sorte de promenade, de déambulation, où l'on passe d'un sujet à l'autre, comme on ferait un cadavre exquis, un mot, on amène un autre, sans que forcément on soit particulièrement rattaché à cette évolution du fil chronologique. Et je pense qu'il a fait un très beau travail de mise en perspective, où très souvent l'architecture se dématérialise et laisse voir justement ces dialogues entre des œuvres et des objets de périodes différentes, mais qui posent souvent des questions très, très intemporelles, très permanentes, qui sont celles aussi de l'humanité. Et le vêtement et l'art sont quand même deux catégories qui ramènent aussi à un langage universel qui est celui de l'humanité.
Voilà, donc pour le public qui visitera S'habille en artiste, l'artiste et le vêtement, de nombreux espaces où il fera bon s'installer, réfléchir, méditer.
Oui, moi je pense que c'est une exposition, c'est faite. Il n'y a pas de règle pour visiter une exposition. On n'est pas obligé de tout regarder, on n'est pas obligé de tout aimer. On peut se poser, on peut accélérer, on peut embrasser une salle d'un seul regard, on peut se poser quelque part et lire un texte sur l'exposition. Je pense que c'est ça qui est très important. Donc c'est aussi un lieu très à l'abri des fracas du monde qui nous disent beaucoup de choses de l'humanité, de notre société. Et ça, je pense que c'est toujours utile.
C'était Olivier Gabet, directeur du département des objets d'art au musée du Louvre, pour la présentation de l'exposition temporaire « S'habiller en artiste, l'artiste et le vêtement » à découvrir au musée du Louvre-Lens jusqu'au 21 juillet 2025.
Alors Ludovic Demathieu, chargé de projet de médiation au Louvre-Lens. Oui, on travaille pour l'été, pour une saison estivale festive depuis 8 ans pour mettre en place une programmation à destination des habitants, des voisins, de tout le public qui souhaite découvrir le musée un peu différemment. Donc voilà, c'est une saison très festive avec plein de temps forts pour découvrir un parc de 20 hectares qui est assez incroyable, avec des environnements différents et puis faire le lien avec le musée qui se trouve en plein milieu de ce parc et profiter d'une programmation très diversifiée pour proposer d'autres choses que ce qu'on a dans l'année au musée. Donc on travaille nous depuis plusieurs années autour de la thématique du vélo, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on incite aux mobilités douces pour venir aussi au musée, on a des engagements écologiques. Et du coup, on a voulu proposer des animations, en tout cas, qui fassent le lien avec le musée. Donc, des animations artistiques qui permettent de découvrir le vélo différemment, sous la forme de jeux, sous la forme d'ateliers. Par exemple, on va faire un atelier pour décorer son vélo en lien avec les tableaux d'Archimboldo. Donc, c'est vraiment cette idée de faire le lien avec des œuvres d'art du passé et comment on peut leur donner vie dans un concours amusant, festif, accessible à tous, où on va pouvoir faire une grande parade où chacun viendra avec les décorations qu'il pourra faire et puis surtout le décorer sur le site du musée avec des associations, avec des ateliers de médiation. Et puis après, plein d'animations festives avec des vélos rigolos, avec du monocycle, avec des animations de cirque aussi. Et puis vraiment, ce volet aussi qu'on souhaite développer, c'est réparer son vélo, entretenir son vélo, le faire soi-même pour l'avoir après prêt pour tout l'été. Venir découvrir le parc en vélo, parce qu'on peut se balader dans le parc. Il y a 20 hectares et c'est très agréable de se balader en vélo. Et puis surtout d'aller sur tous les sites autour du musée aussi, qui sont incroyables et qui permettent de relier les endroits importants du territoire. Ouais, on a souhaité cette année encore proposer au public de participer à notre saison parc en fête. On a des œuvres de grands artistes reconnus qui sont dans le parc. Notamment, on a une œuvre de Nikita Saint-Phal depuis l'année dernière. Mais on souhaitait aussi travailler avec des artistes vivants qui travailleraient avec du public, du territoire, pour les associer dès le mois de juin à la saison parc, en fait. Ça leur permet de travailler sur une installation qui sera visible de tous les publics pendant l'été. Et puis, de travailler aussi avec une artiste, c'est échanger, c'est collaborer, c'est travailler avec elle, c'est réfléchir ensemble à la structure, à l'installation. Et puis surtout, c'est mélanger des publics qui ne se côtoient pas forcément. Et donc, pendant nos ateliers participatifs du mois de juin, on associe aussi bien des élèves, des lycéens qui viennent là pendant le mois de juin dans le cadre du stage de seconde, que des associations autour de la parentalité, des associations qui travaillent avec des adolescents, avec des publics très variés, multigénérationnels, qui vont collaborer pour une même chose, pour une même installation, et puis vraiment avoir cette fierté, quand on va inaugurer les œuvres, de se dire « moi j'ai participé à l'œuvre qui est exposée au parc du Louvre-Lens ». Et ça donnera aussi envie, en tout cas on l'espère, de revenir pendant l'été et de participer à toutes les activités gratuites qu'on aura. Alors ça fait partie des engagements aussi du musée, on souhaite aussi sensibiliser, donc comme je disais, à mobilité douce, à l'alimentation, donc on travaille beaucoup avec des partenaires du territoire, et notamment on a souhaité s'associer avec les Anges Gardins et l'UFC Que Choisir, pour leur donner carte blanche, pour créer des événements qui permettent de travailler autour de l'alimentation et du bien manger, tout en faisant le lien avec les œuvres du musée. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de tableaux qui représentent des scènes de repas. On a les tableaux du XVIIIe siècle. On a surtout les tableaux d'Archimboldo autour des fruits et légumes. Et on les utilise déjà toute l'année pour parler avec les scolaires de la saisonnalité, des fruits, des légumes, de ce qu'on mange, d'où ça vient aussi. Et puis des échanges entre les pays, comment on a découvert, comment est arrivé le citron, etc. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de faire un focus autour de l'alimentation, mais sous la forme de jeux, sous une forme ludique et artistique. Donc il y aura plein d'activités qui seront proposées, ateliers cuisine, ateliers découverte, initiation, dégustation, et puis ateliers de pratique artistique autour de cette thématique-là pendant toute la semaine. Ouais, on a souhaité aussi, pendant l'été, proposer des spectacles avant une programmation art vivant. Nous, on a la chance au Louvre-Lens d'avoir une scène, donc on a des spectacles toute l'année en lien avec les expositions. Et pendant l'été, souvent, on fait une petite pause. Et là, on a souhaité prolonger en fait, cette saison de spectacles dans le parc avec de l'art de rue, avec des circassiens et puis avec des compagnies du territoire. Et notamment, on proposera un spectacle avec la compagnie Metalu HAUT, qui est bien connue dans la métropole, qui propose des spectacles qui permettent justement, là, dans ce cadre-là, qui s'appelle La Faille, de prêter attention à des choses qu'on ne regarde pas forcément, de voir le sol sur lequel on marche, de regarder les aspérités du sol, de voir un peu ces failles qu'on a dans le sol, qui sont après habitées, peuplées par des mauvaises herbes, par des insectes. Et donc, il y aura un spectacle qui permettra justement d'y prêter attention et de créer une sorte d'installation un peu participative, collaborative avec le public. Donc, ça va être un beau rendez-vous aussi pour voir le parc différemment encore sous le regard d'artistes et de ses comédiens. Le 9 août, on a souhaité proposer un nouveau temps fort autour des étoiles. Ça sera la deuxième année, puisqu'on avait testé ce format l'année dernière. Ça avait très bien marché. On avait justement expérimenté quelque chose qui n'avait jamais été fait au musée, c'est-à-dire de dormir sous la tente. On avait déjà eu des séances de cinéma de plein air, de cinéma qui étaient proposées dans le cadre de Parc en Fête. Et là, on a souhaité coupler une programmation assez exceptionnelle avec à la fois de l'observation des étoiles, des planètes, avec un club d'astronomie de Lens qui sera là toute la soirée jusqu'à même 4 heures du matin pour observer les étoiles, les planètes et les étoiles filantes aussi. On en a eu beaucoup l'année dernière. Et puis en même temps, des ateliers du cinéma de plein air ouverts et accessibles à tous gratuitement. Des animations aussi qui seront proposées, des petites surprises dans la soirée, notamment des balades à la lampe torche et des ateliers à la lampe torche. Et puis vraiment, je pense que ce qui a attiré beaucoup de personnes l'année dernière, et on l'avait fait pour un petit public, une quarantaine de personnes, c'est que cette année, on va proposer donc la nuit sous la tente pour 90 personnes. Ça reste, on n'est pas encore un camping, on est un musée, donc on souhaite quand même faire ce petit pas de côté et montrer que la culture est partout. Et donc, on proposera aux quelques chanceux qui pourront s'inscrire, donc en juillet, s'inscrire pour cet événement, dormir sous la tente et se réveiller le matin dans le parc du Louvre-Lens, face au musée, et prendre un petit déjeuner tous ensemble et faire des séances de bien-être après pour se remettre de cette nuit sous la tente. Oui, on a voulu aussi proposer des spectacles variés, notamment un spectacle avec des circassiennes, la compagnie 3 secondes, qui proposera un spectacle autour du ciel et plus particulièrement de l'aviation. Donc c'est un spectacle de portée, de voltige, qui est assez impressionnant, très poétique, accessible pour toute la famille, qui sera présenté dans le parc, en lien aussi avec la programmation autour du ciel. Et notamment, on a voulu mettre en place une activité cerf-volant avec un club d'astronomie. Pareil, on s'appuie vraiment sur les structures du territoire. Et donc, ils viendront faire des initiations, des démonstrations de cerf-volant. C'est des clubs qui sont lors des grands événements à Berck, au Crotoy, qui ont l'habitude, avec des cerfs-volants géants notamment, de faire des animations pour le public. Et donc là, ils proposeront de fabriquer son cerf-volant, de le décorer en lien avec les œuvres du musée, et puis après, de s'initier pour le piloter, parce que ce n'est pas toujours évident non plus, en fonction du vent, donc de donner un peu les bases pour l'utiliser pendant l'été après. Ouais, on a voulu aussi proposer une programmation autour de la photo. On a un lieu qui est très photogénique. On a un bâtiment qui est assez incroyable, une architecture magnifique. Et puis un parc avec des environnements très différents. On a un plan d'eau, on a une grande prairie fleurie, on a un sous-bois. Et depuis quelques années, on organise des balades photos qui plaisent beaucoup. C'est vraiment l'idée de découvrir avec un professionnel, avec un photographe professionnel, les trois petits trucs qui permettent de faire des belles photos. Donc il y a vraiment une partie technique. Et puis après, on part en balade dans le parc et on va à la chasse aux photos avec des consignes qui sont données par le photographe. Et donc ensuite, on partage les photos les uns avec les autres, avec les publics. C'est des publics qui sont très variés. On a des adolescents, des adultes, des enfants qui y participent. Et puis les plus belles photos, on les imprime. Donc on peut repartir avec sa photo, un peu sa carte postale qu'on aura réalisée soi-même du parc, du musée, de l'architecture. Et la volonté aussi, après, c'est de valoriser ces photos pour en faire des cartes postales qu'on pourra distribuer au public. Alors, on a souhaité aussi, donc, comme on le fait dans la programmation durant toute l'année, autour de nos expositions, notamment, on l'avait fait pour l'exposition Exil, c'est travailler avec les structures du territoire et valoriser aussi le travail qui est fait par ces structures, par ces associations. Et donc, notamment, on a un partenariat avec la CIMAD qui va organiser une exposition photo au sein du musée qui présentera une expo qui a été réalisée avec des bénéficiaires de la CIMAD autour de l'idée de l'habitation, de la cabane, du logement. Notamment quand on est exilé, quand on est expatrié, quand on quitte son domicile, qu'on quitte son habitation et puis qu'on est parfois amené à loger aussi dans des habitats de fortune. Et donc il y a des ateliers qui ont été faits avec ces personnes. Et donc le résultat de ces ateliers a donné lieu à une très belle exposition photo qui sera présentée au sein du Louvre-Lens et qui sera le fil rouge pour le week-end. Donc on aura des ateliers qui seront proposés pendant tout le week-end autour de la cabane. Donc effectivement la cabane comme habitat, mais aussi on a voulu faire un clin d'œil à la cabane de l'enfance à travers des animations. On fera de l'acrobranche, on aura des circassiens qui feront un parcours aussi autour du thème de la cabane, dans le sous-bois notamment, qui amènera le public à redécouvrir aussi différemment le musée du Louvre-Lens et sa végétation. Et puis plein d'autres surprises qui accompagneront ce week-end. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un week-end très varié, avec de la photo, des parcours d'acrobranche, des animations artistiques, pour terminer l'été en beauté. Ouais, on propose des choses très différentes pendant tout l'été, et c'est une programmation qui est récurrente pendant tout l'été. Donc quand vous venez à Parc en Fête, quand vous venez au musée du Louvre-Lens, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le parc. Vous pouvez venir emprunter du matériel sportif pour faire un ping-pong, du mini-golf, faire un petit match de foot ou une partie de molky. Vous pouvez également aller au bord de l'eau pour faire un atelier artistique. Donc on propose toutes les semaines, en lien avec nos différentes thématiques, des ateliers qui sont gratuits, qui sont accessibles dès 2 ans, dès 3 ans pour les familles. Donc on se pose au bord de l'eau et puis on peut faire du dessin, de la gravure, du modelage, des petites compositions découpées, des pop-up. Voilà, c'est assez amusant, c'est très ludique. Et puis c'est un espace qui est très agréable au bord de l'eau pour créer et pour s'inspirer de la nature qui est autour de nous. Et puis on a plein de propositions après autour du bien-être notamment. Donc tous les dimanches matins on propose du yoga, du qigong dans un environnement assez incroyable au bord de l'eau, dans le sous-bois. Et en cas de mauvais temps, on peut même se rapatrier et faire du yoga dans le musée, dans les espaces d'exposition. Donc même en cas de mauvais temps, on vit une expérience aussi assez extraordinaire, puisqu'on n'a pas tous les jours la chance non plus de faire du yoga dans un musée entouré par des œuvres d'art. Alors on a souhaité aussi garder une trace de ce qu'on vit au Louvre-Lens pendant l'été. Et quand on part en vacances, on aime bien encore envoyer, en tout cas, des nouvelles de ce qu'on vit, des choses incroyables qu'on peut faire, et notamment aussi les cartes postales. Et les enfants aiment bien aussi dessiner sur des cartes. Et donc, on a souhaité, au musée, proposer librement au public de compléter des cartes postales qui ont été réalisées par une illustratrice, Océane Azo, et de venir faire du dessin, du coloriage, de compléter sa carte postale pour raconter un spectacle qu'on aurait vu, une animation qu'on aurait pu faire, une séance de yoga, un concert, une fanfare qu'on aurait pu voir qui nous aurait marqué. Et donc on la complète, on dessine, on écrit un petit texte au dos, et puis on aura la chance d'avoir avec la poste une boîte aux lettres dans le hall du musée. Et donc on pourra poster sa carte postale décorée, artistique, pour l'envoyer à sa famille, à ses amis, et donc garder, ou la garder même pour soi, et garder une trace, un petit souvenir finalement de ce qu'on a vécu pendant l'été au musée. Ouais, c'est vraiment une saison parc en fait qui est destinée à tous, et on travaille beaucoup pour ça avec les habitants du territoire, avec les associations, avec les centres sociaux, avec les lycées. C'est une saison qui se prépare dès le mois de janvier avec toutes les structures pour réfléchir avec eux à la programmation, pour co-construire les événements. Quand on programme quelque chose, on les associe. Quand on choisit un film, on sollicite les habitants pour savoir si ça, c'est le bon film ou s'ils ont une autre idée. Pour les œuvres participatives en amont, on travaille avec des artistes et ce sont les habitants qui viennent créer les installations avec les artistes. Et pendant tout l'été, on anime aussi des animations avec les associations du territoire qui ont l'habitude de travailler avec les habitants et donc qui savent fédérer aussi autour de nos temps forts. Donc c'est vraiment une saison qui est dédiée à tous. On a des habitués qui viennent tous les jours parce que tous les jours, il y a des choses différentes. Et c'est vraiment un public de proximité qui vient très régulièrement. Et puis après, il y en a d'autres qui viennent pour les expositions et puis qui découvrent parc en fait et puis qui se rendent compte aussi de tout ce qu'il y a dans le parc, qui découvrent le parc. Parce qu'on vient en Louvre-Lens pour les expositions, mais maintenant on vient aussi pour son parc et pour tout ce qu'on y propose. Donc ça devient une destination aussi en soi. Et on peut vraiment, en une journée, avoir un programme complet entre les expositions, pique-niquer dans le parc et puis participer aux activités en extérieur. Donc ça devient un rendez-vous important et un rendez-vous maintenant qui est attendu tous les étés, puisque ça fait plusieurs années qu'on a cette saison parc en fête qui est organisée au musée. Alors nous, on essaye vraiment que toutes les activités en extérieur, parc en fête, soient gratuites. Donc que ce soit les activités artistiques, sportives, les spectacles, tout est gratuit dans tout ce qui est en extérieur. On maintient une activité payante avec des visites ateliers, des visites guidées à l'intérieur. Mais en tout cas, ce que l'on souhaite, c'est que ce soit vraiment une saison qui soit populaire, accessible à tous et que ce soit une façon un peu décomplexée, facile d'accès pour accéder à des propositions de qualité avec des artistes reconnus. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est de moins bonne qualité. On fait la même chose en intérieur qu'en extérieur. Et donc, du coup, voilà, on a vraiment cette volonté d'avoir cette programmation gratuite. Malgré le contexte un peu compliqué en ce moment, on réduit certaines choses. Quelques temps d'ouverture, quelques ateliers qui sont un peu moins nombreux. Mais en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait toujours cette programmation pendant les deux mois d'été. Parce que quand les centres de loisirs accueillent plus les jeunes, nous, on est ouverts et on peut encore accueillir ces jeunes tout début juillet ou alors fin août pour leur proposer des activités et éviter qu'ils soient là à traîner ou à rester chez eux. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit possible, gratuit, tous les jours, au Louvre-Lens. De toute façon, le musée est gratuit. La Galerie du Temps est gratuite depuis l'ouverture et le restera. Le seul espace payant, c'est l'espace d'exposition temporaire avec s'habiller en artiste jusqu'au 21 juillet. Mais sinon, le musée est gratuit, les activités en extérieur sont gratuites et ça le restera encore un moment.
C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.